Cet après-midi, je vous invite donc à tourner dans le livre de la Genèse, au chapitre 15. Nous sommes dans l'histoire d'Abraham. Donc, Genèse, chapitre 15. Nous allons nous arrêter de manière particulière aujourd'hui au verset 6, mais nous allons lire donc à partir du verset 1. Donc, Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Après ces événements, après qu'Abraham eut combattu certains rois étrangers pour délivrer son neveu Lot, que Melchisédek soit venu le rencontrer, le bénir, il nous est dit, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice, qui considéra cette foi comme justice. Le sujet que nous abordons cet après-midi, qui est devant nous, qui est au centre de ce verset-là, verset 6 du chapitre 15 de Genèse, est de la plus haute importance, parce qu'il fait référence à la manière dont quelqu'un peut se présenter devant Dieu. Il fait référence à notre relation avec Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut être déclaré juste, c'est-à-dire être agréé par Dieu? Et vous savez, si on posait la question à bien des gens, on aurait toutes sortes de réponses, mais même parmi ceux qui se disent chrétiens, même parmi les chrétiens, nous aurions aussi différentes réponses. Mais dans l'Écriture, il n'y a pas plusieurs réponses, il n'y en a qu'une. Elle est ici. Il est vrai que lorsqu'on lit Genèse chapitre 15, verset 6, en fait, pour la plupart des croyants, même de ceux qui lisent la Bible, on peut passer très, très rapidement sur le verset 6 sans se rendre compte de l'importance de ce qui est déclaré ici. Mais ce qui est déclaré ici a un sens particulier. On ne peut pas l'interpréter de différentes manières. C'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. C'est important parce que toute notre relation avec Dieu dépend de cela, de comment est-ce que nous sommes agréés par Dieu, comment est-ce que nous sommes déclarés justes devant sa face. Et quand je dis notre relation, c'est non seulement au niveau de Dieu, du côté de Dieu face à nous, c'est aussi nous dans notre marche avec notre Dieu. Il y a toute une différence entre chercher à être agréé de Dieu dans le sens de craindre pour notre salut, de ne pas savoir si Dieu nous accepte, et avoir la certitude qu'il le fait. Ça change tout. Ça change toute notre manière de voir, de comprendre la vie chrétienne. Ça change notre manière de nous comporter face à Dieu et face aux hommes aussi. Et donc, comme je le disais, ce verset-là peut passer facilement inaperçu, n'est-ce pas, au lecteur, lorsqu'on est en train de lire ce chapitre-là. Et je dois avouer que moi-même, pendant des années, dans les premières années de ma vie chrétienne, je n'ai jamais réalisé toute l'importance de ce verset-là. Pourtant, il nous parle d'une vérité fondamentale, cardinale, qui touche à l'essence même de l'Évangile. Quand je dis fondamental, cardinal, c'est que nous avons dans la Bible des doctrines, des vérités, des enseignements qui sont essentiels à la vie chrétienne. Tout n'est pas essentiel. Tout est important dans la Bible. Mais tout n'est pas important au même degré. Il y a des doctrines, il y a des vérités qui sont plus importantes que d'autres. Qui est Dieu? La Trinité. La personne du Christ. Qu'est-ce qu'il a accompli pour nous? Comment est-ce que nous sommes déclarés justes devant Dieu? Nous sommes ici, bon, la question même, qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Hein, son inspiration, etc. Ce sont là des doctrines cardinales qui touchent au cœur même du message de l'Évangile. Et quand je dis qu'il touche au cœur même du message de l'Évangile, je veux dire par là que c'est vital. Comme mon cœur est vital à mon organisme, si mon cœur est malade, tout l'organisme sera malade. Si mon cœur cesse de battre, je vais mourir. Quand nous disons qu'une doctrine, une vérité est vitale, ça veut dire que si, d'une manière ou d'une autre, on l'affaiblit, on la met de côté, on la néglige, ben c'est tout le message de l'Évangile qui va être affaibli, et c'est donc aussi l'Église qui va être affaiblie, son témoignage qui va être affaibli, ça va avoir des répercussions sur nos vies personnelles. Pire encore, si on arrache cette vérité de l'Évangile, c'est la mort. Nous vidons le beau message de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, de toute sa force. Ça peut peut-être plaire à ceux qui nous écoutent, à certaines personnes, que l'on mette ces choses de côté, mais eu égard au message lui-même, on vient de l'émasculer, voire même de l'assassiner. La question de la justification par la foi est donc essentielle, cardinale, fondamentale. Nous l'enlevons et notre évangile est un évangile stérile qui ne peut plus porter de fruits. Je ne parle pas ici de ce que nous pouvons voir extérieurement. Je parle de l'œuvre de Dieu dans les cœurs, parce que Dieu agit par sa parole. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité et qu'il agit selon la vérité. Nous touchons à la justification par la foi seule, et c'est comme lorsque Samson s'est fait couper les cheveux. Vous savez que, non pas que sa force résidait en elle-même dans ses cheveux, mais c'était le signe de sa consécration à Dieu. On connaît l'histoire, son compromis, n'est-ce pas, etc., etc. Comment est-ce qu'il a vendu la mèche, pour me permettre un jeu de mots. Hein, il a vendu la mèche et il s'est retrouvé rasé par les Philistins. Sa force l'a abandonné. Ça dit que l'Éternel l'a abandonné. Jusqu'à ce que ses cheveux repoussent, si nous mettons de côté la vérité que nous retrouvons ici en Genèse, chapitre 15, verset 6, eh bien, notre évangile n'aura plus sa puissance. Jusqu'à ce qu'on y revienne. Il n'y a qu'un message, il n'y a qu'une vérité par laquelle Dieu agit. Et donc, si on dépouille l'évangile de cette vérité-là, celui-ci risque de devenir un simulacre, une triste parodie du véritable message. Et l'importance de celui-ci est démontré partout dans l'Écriture, mais d'une manière particulière, par le fait que Paul lui-même va citer à deux reprises Genèse chapitre 15, verset 6, dans son épître aux Romains et dans son épître aux Galates, alors qu'il combat justement ceux qui remettaient en question le salut en Christ et en Christ seul et par Christ seul, qui cherchaient, selon les mots mêmes de Paul en Galates, à altérer, à renverser l'Évangile, à en faire le contraire de ce qu'il est. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver, et ces gens-là étaient en train d'en faire un message de perdition pour égarer les âmes. Ils avaient les mêmes mots que l'apôtre Paul, mais ils avaient les mêmes textes bibliques, mais ils les interprétaient différemment. Ce message que nous retrouvons ici, c'est que nous sommes sauvés uniquement par la foi en Christ Jésus, par la foi seule. Non pas la foi et ma volonté, non pas ma foi et quelques œuvres, par la foi seule. Et le premier point cet après-midi, c'est que nous devons réaliser plus que jamais que nous n'avons aucune justice, que l'homme, pécheur devant Dieu, est dépossédé de toute justice personnelle pour que Dieu puisse le déclarer juste devant sa face. Alors, il nous est dit que Abraham eut confiance ou crut en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et a priori, on peut effectivement très mal comprendre ce que cela signifie, d'autant plus qu'il y a aussi l'endroit, le moment où on retrouve une telle déclaration. Quoi qu'il en soit, le contexte, on l'a vu, Abraham a été appelé par Dieu, Dieu lui a fait de grandes promesses, a fait alliance avec lui, il lui a promis une postérité. Abraham vieillit, n'est-ce pas? Il est dans la terre promise, il a quitté Ur en Chaldée. Sa femme est stérile depuis toujours. Et donc, en réfléchissant, il s'est dit, ça sera le fils de mon serviteur, fidèle tout simplement. Et après avoir vécu des moments difficiles, alors qu'il est en proie à certaines craintes face à peut-être des représailles des rois qu'il avait vaincus, Dieu lui apparaît pour le fortifier et Dieu réitère sa promesse. En fait, c'est Abraham lui-même qui lui dit, « Mais tu ne m'as pas donné de postérité. » Et le Seigneur de lui dire, « Sors dehors, regarde les étoiles du ciel. » Bien sûr, à Montréal comme à Québec, lorsqu'on regarde le soir le ciel, on ne voit pas beaucoup d'étoiles, n'est-ce pas? Mais si on sort de la ville, si on va dans les montagnes, ce que nous allons voir est à couper le souffle. Des milliers d'étoiles, ce n'est pas comptable. Alors, nous avons un homme qui vieillit, dont la femme est stérile, et Dieu lui dit, « Regarde, tu ne peux pas les compter, n'est-ce pas? » « Ainsi sera ta postérité. » Et là, il nous est dit qu'Abraham crut en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et nous pourrions donc en déduire a priori qu'Abraham a mérité, n'est-ce pas, d'hériter de la promesse parce qu'il a décidé de croire. C'est ainsi que les Juifs, à l'époque du Nouveau Testament, interprétaient donc de tels passages. Pour eux, Abraham était l'homme le plus juste de sa génération. Il avait été choisi par Dieu parce que Dieu avait vu en lui une certaine justice. Hein? Et Abraham a hérité des promesses en raison justement de ses œuvres, de ses bonnes œuvres, de sa fidélité à Dieu, de sa foi. Et donc, on voyait dans la foi quelque chose de méritoire. C'est ainsi qu'on comprenait aussi le choix de Dieu, que Dieu avait fait de Noé, n'est-ce pas, à l'époque du déluge, lorsqu'il nous est dit que Dieu a vu que Noé était juste. Alors, on lisait, donc on interprétait le texte de cette manière-là. Dieu a vu quelque chose de bien et de bon dans l'individu. Oui, Abraham et Noé étaient des pécheurs. Mais ils se sont amendés, oui, ils ont offert les sacrifices, etc., etc. Oui, Dieu leur a accordé aussi son pardon, mais ils ont accompli quelque chose nécessaire pour plaire à Dieu. C'est ainsi que l'Église aussi, au cours des siècles, va interpréter la chose et va voir, justement, dans la foi elle-même, et après cela, dans les œuvres bonnes, dans la sanctification, quelque chose qui mérite, hein, qui possède quelques mérites devant Dieu, et donc qui va nous justifier devant Dieu. Et on va en arriver même à une époque où l'on dira qu'il est impossible de posséder l'assurance de notre salut. Il faut pour cela, bien sûr, avoir reçu le baptême, avoir été régénéré, mais il faut accomplir quelque chose. Il faut en arriver à un certain niveau de justice que Dieu demande. Oui, le sang du Christ nous lave de nos péchés, tout cela, mais il faut accomplir quelque chose. Et même dans les milieux protestants évangéliques, où on affirme avec force que l'homme n'est justifié par la foi seule, bien souvent, on considère que cette foi a quelque chose de méritoire. Puisque j'ai décidé, n'est-ce pas, de me tourner vers Dieu, et de croire en lui. Donc, le premier point, c'est, est-ce qu'on parle ici d'une justice qui nous est propre? Et pour comprendre cela, le deuxième point, il faut bien saisir que la Bible nous dit qu'il n'y a point de juste dans ce monde. Moïse n'enseigne pas ici qu'Abraham a atteint une certaine justice pour être agréable à Dieu, que sa foi possédait quelque chose de méritoire. Parce que si Moïse avait écrit cela, il se serait lui-même contredit. Puisque si on prend ce texte-là et qu'on le remet dans son contexte, bien, le contexte commence par bien sûr par la création du monde, de l'homme et la chute. Et ce que Moïse nous présente à ce moment-là, c'est véritablement une apostasie de l'humanité. Moïse nous présente en bref, n'est-ce pas, même l'histoire de cette humanité déchue jusqu'au déluge, jusqu'à Abraham, etc. Mais ce qu'on y voit, c'est que toute l'humanité s'est détournée de Dieu. Et si on lit bien ce que Moïse a écrit, on découvre à quel point ce que l'homme a fait en Éden, ce qu'Adam et Ève ont fait, est d'une gravité exceptionnelle. Vous savez, l'homme n'a pas commencé à chuter en Éden. L'humanité n'est pas placée devant un choix personnel en ce moment. Elle n'est pas en train de choisir. L'humanité a fait son choix en Éden. L'homme et la femme avaient été créés parfaits, sans tache, avec une justice personnelle, une sainteté réelle. Et ils ont agi d'une façon qui est contre nature, qui est inexplicable, pour rejeter Dieu, rejeter sa bonté, rejeter sa loi. Et l'Écriture nous dit qu'ils sont morts spirituellement. Le péché a corrompu tout leur être. Et c'est ce que Moïse nous dépeint dans les chapitres qui suivent. Ça va conduire au déluge, où il nous est dit que seulement un homme et sa famille ont pu y échapper. Et qu'est-ce qu'on voit après? Rapidement, l'humanité se tourne vers l'idolâtrie, tout cela, ce qui fait que Dieu doit appeler un homme particulier, Abraham, pour faire sortir de lui un peuple, afin que s'accomplisse la promesse qu'il avait faite à l'époque de la chute, justement, la promesse d'un sauveur. L'apôtre Paul a bien compris cela lorsqu'il citait l'Ancien Testament, enfin les psaumes, n'est-ce pas, Romains chapitre 3, versets 10 à 12, lorsqu'il écrit « Il n'y a point de juste ». Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et Paul de souligner que ce que la loi dit, ce que David déclare, il le déclare aussi au peuple de l'Alliance, aux Juifs. Et donc l'idée, c'est il n'y a point de juste, pas même un seul. Pire encore, nul n'est intelligent pour les choses de Dieu. Nul ne cherche Dieu. Nul. Il n'y a pas d'exception possible. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est ainsi que la Bible dépeint l'humanité après la chute. Et ce qu'elle dépeint est la réalité que l'on peut voir tous les jours. Et Abraham n'échappait pas à cette réalité-là encore, n'est-ce pas? Et non seulement le péché nous a corrompus, mais la Bible nous dit aussi que le péché possède un caractère déméritoire. Alors, on parle de mérite et de démérite. Comme lorsqu'on brûle un feu rouge, on se fait prendre par la police, on risque d'avoir des points de démérite. En péchant, l'homme a perdu tous ses points. Pire encore, il a accumulé une dette incroyable que personne ne peut payer face à Dieu. Et pour comprendre cela, il faut comprendre qui est Dieu. Il faut comprendre le caractère haineux du péché. Il faut comprendre à quel point il a souillé nos âmes. Et Dieu réclame justice. Le péché possède un caractère déméritoire. Et donc, personne ne peut s'approcher de Dieu avec quelque mérite qui soit. C'est ce que la Bible nous déclare. C'est ce que Moïse lui-même nous dépeint dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et donc, toute la signification importante de Genèse, chapitre 15, verset 6. Abraham crut à Dieu qui le lui imputa à justice. Mon troisième point, c'est que la justice d'Abraham ne venait point de lui. Elle ne venait point de sa foi en tant que telle. C'est une justice qui venait de Dieu lui-même, qui lui a été accordée gratuitement. Parce qu'Abraham était aussi un fils d'Adam. Il a déjà lui-même été un adorateur d'idoles lorsque le Seigneur l'a appelé, lorsque le Seigneur lui a accordé la grâce de la repentance, l'a éclairé dans sa grande bonté. Et donc, si Abraham a été déclaré juste devant Dieu, ce n'était pas à cause de sa piété personnelle, mais par pure grâce, par le moyen de la foi. Je vous invite à tourner dans Romains chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 8, où l'apôtre Paul, justement, fait référence à Abraham et cite Genèse chapitre 15, verset 6. Donc, Romains chapitre 4, versets 1 à 8. L'apôtre décrit, « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Paul est très, très clair ici. Abraham, le père des croyants, le grand modèle qui nous est donné, n'a pas été justifié par ses œuvres, par quelque bonne action que ce soit, par sa piété, mais par la foi seule. Au verset 5, il nous dit, « Par la foi seule en celui qui justifie l'impie. » Et donc, Paul considère qu'Abraham, naturellement, était un impie, qui a été gracié. Si cette justice avait reposé un tant soit peu sur Abraham, nous dit l'apôtre Paul, celui-ci aurait pu se glorifier et cela aurait été considéré comme un salaire. Mais voilà ce que Moïse nous dit, cela lui a été imputé, compté à son compte. C'est-à-dire que Abraham lui-même n'a absolument rien fait en soi, juste accepter la promesse divine, croire en Dieu, se confier en lui. Et donc, l'apôtre Paul décrit, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Et donc, lorsqu'il nous est dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, ce n'est pas juste qu'il a eu confiance dans une promesse. Beaucoup de gens considèrent la foi comme cela. Je prends les promesses de Dieu, je crois en cela. Je crois la promesse de Dieu qui va pourvoir mes besoins, il va me donner du travail, il va me donner la vie éternelle, etc., etc. L'essence de la foi d'Abraham, c'était premièrement qu'il réalisait qu'il était convaincu qu'il n'avait aucun droit par lui-même de se tenir devant ce Dieu-là. Que ce que Dieu lui offrait, la promesse que Dieu lui a faite, il ne la méritait point. L'essence de la foi se trouve là, frères et sœurs. Celui qui croit en celui qui justifie l'impie. Abraham savait qu'il était complètement indigne de la promesse. C'est la raison pour laquelle sa foi lui fut imputée à justice. C'est là l'essence de la foi. D'ailleurs, Abraham offrait les sacrifices requis. Il savait qu'il méritait la mort éternelle. Il savait qu'il méritait la colère divine, mais que Dieu lui avait fait grâce, mais qu'il fallait qu'un être innocent périsse pour qu'il puisse s'approcher de ce Dieu-là. Il fallait que le sang coule pour qu'il puisse être en communion avec le Dieu d'éternité. Et donc, la justice dont il est question ici n'est pas la justice même du pécheur repentant. Ce n'est pas la justice du croyant. Ce n'est pas la justice de la foi elle-même. C'est une justice qui est extérieure à celui qui croit. C'est la justice qui vient de Dieu. Et bien sûr, ce qui sera révélé plus tard, c'est qu'elle nous vient de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, les verbes, en fait, le verbe, tant en hébreu qu'en grec, imputé, est un verbe qui fait référence à un acte légal, porté au compte de, crédité. Le compte est vide. En fait, plus que cela, il y a une dette infinie, n'est-ce pas, qui doit être remboursée et le pécheur ne peut la rembourser. Et grâce à la mort du Christ, celle-ci a été remboursée. Mais c'est plus que cela encore. La justice personnelle du Fils remplit le compte à déborder. Et donc, c'est une justice qui vient de Dieu et c'est aussi une justice, justement, qui est reçue par la foi. Est-ce que Moïse veut nous expliquer ici ce qu'il affirme. Non, ce n'est pas que la foi d'Abraham était méritoire, mais que Abraham a reçu la grâce de Dieu par la foi. Ce n'est pas la foi n'est pas méritoire, elle n'est pas la cause de la justification. Elle est juste la main qui se tend vers Dieu, hein, qui s'ouvre vers Dieu pour recevoir. Elle est juste l'instrument par lequel Abraham a pu recevoir la promesse divine. Et c'est celle par laquelle tout homme et toute femme peut justement se tourner vers Dieu et être sauvé. Si, on a vu que l'apôtre Paul est très, très clair. Nul ne peut être sauvé par les œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, si la foi est un acte méritoire en lui-même, il est nécessairement une œuvre. Ou la foi est un don de Dieu, ou elle est une œuvre humaine. Il n'y a pas de place pour un entre-deux, pour un compromis. On ne peut pas, comprenez-vous, il n'y a qu'un principe de justification par la foi seule. L'apôtre est très, très clair, ce n'est point par les œuvres. Si nous considérons qu'il y a quelque chose de méritoire dans la foi, c'est donc que nous croyons que le salut est par les œuvres, nécessairement. Si nous réalisons cependant que la foi n'est que l'instrument par lequel nous recevons la grâce et que nous réalisons qu'elle ne vient pas de nous, mais qu'elle est un don de Dieu, alors nous commençons à comprendre les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous en Christ Jésus. À quel point tout repose sur Dieu et son Fils. À quel point tout est gratuité. Maintenir la moindre responsabilité de notre salut, de notre côté, c'est logiquement rejeter le salut par la foi seule. Et l'Écriture nous dit, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Bien sûr que le vieil homme en nous, l'homme déchu, cette vieille nature toujours présente possède une génétique spirituelle qui la pousse constamment à réclamer quelques mérites devant Dieu, à s'élever en professant posséder quelques justices personnelles. C'est inné, c'est dans la génétique du vieil homme. C'est la raison pour laquelle ça revient constamment même chez le croyant, cette idée, qu'on le veut ou non, d'essayer de plaire à Dieu par nous-mêmes, d'être justifié par quelques bonnes œuvres, ne serait-ce que par le seul fait que nous puissions dire que nous avons accepté Dieu. Parce qu'effectivement, si j'ai accepté Dieu par moi-même et que celui d'à côté ne l'a pas fait, s'il va en enfer, c'est de sa propre responsabilité, mais donc, c'est donc grâce à moi, dans ce sens-là, hein, si je suis sauvé. Et donc, dans cette génétique spirituelle, bien, il n'y a qu'un réflexe inné, possible, c'est celui de chercher à se justifier d'une manière ou d'une autre devant Dieu. Vous savez ce que c'est la génétique? Ça ne s'explique pas. Un lion est un lion, tout simplement, parce que c'est dans sa génétique. Il ne mangera pas de la salade, il va chercher à manger de l'agneau. Un oiseau va se mettre à voler, hein? C'est inné un jour ou l'autre, il va se mettre à voler. Certains oiseaux migrateurs font des voyages extraordinaires. Tout cela est dans la génétique. Tout cela est inscrit dans les gènes de ces animaux-là. Ainsi en est-il dans le gène du vieil homme. Tout ce qu'il désire, c'est de mettre de côté la justice qui vient de Dieu pour pouvoir se glorifier. Et nous devons faire tout notre possible pour ne pas diluer la grâce de Dieu et donner toute la gloire à ce dernier et à son Fils bien-aimé. C'est lui qui accomplit notre salut du début jusqu'à la fin, et nous devons constamment nous rappeler que notre justification, que nos bonnes œuvres, ce sont les fruits qui poussent sur le bon arbre du salut et non le contraire. L'arbre ne pousse pas sur le fruit, mais le fruit pousse sur l'arbre. L'arbre, c'est le salut en Christ. C'est sa justice personnelle qui m'a été imputée, grâce à laquelle je suis agréable à Dieu. Maintenant, réconcilié avec Dieu, et parce que je suis réconcilié, parce qu'il n'y a plus d'obstacle entre moi et mon Dieu, bien, la sanctification a pu prendre place. Mes bonnes œuvres, qui sont réelles, que je dois rechercher, je ne les fais pas en vue d'être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Je n'essaie pas de payer la dette qui a déjà été payée. Je sais que désormais je suis accepté par Christ, par Dieu en Christ Jésus. Et de là, mon dernier point, c'est justement de se souvenir, de se rappeler constamment que nous n'avons qu'une seule et unique justice devant notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est intéressant de voir que où se situe cette déclaration d'imputation d'une justice à Abraham par Moïse. Enfin, une justice que Dieu a imputée à Abraham, cette déclaration qui est faite par Moïse. Au Genèse, chapitre 15, verset 6, ça fait déjà des années qu'Abraham a été appelé par Dieu et parti à marcher par la foi. Et c'est ici qu'on trouve la grande déclaration. Et ce n'est certainement pas un hasard. D'ailleurs, il n'y a aucun hasard dans les Écritures, on est d'accord avec cela. Les Écritures sont inspirées de Dieu, et donc elles portent l'empreinte de sa grande sagesse. Tout a été réfléchi, pensé de toute éternité. On ne peut rien y ajouter, rien y retrancher. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve ça à ce moment-là? Bon, il y a plusieurs... certains ont voulu faire référence à la promesse d'une postérité, etc., etc. Mais je pense que c'est plus simple que cela encore. Et c'est une grande consolation pour tous ceux qui ont cru en Christ Jésus. L'idée est celle-ci. Abraham, au moment où Dieu s'adresse à lui, en fait, même dans la présence de Dieu, ressent toute son indignité. Il ressent à quel point il ne mérite pas d'hériter de la promesse. Rappelons-nous que déjà, il avait commis quelques impairs. Il va en commettre d'autres, d'ailleurs. Donc, sa foi est imparfaite et on ne sait pas tout ce qui est passé, tout ce qui lui est passé par la tête, tout ce qui s'est produit dans son cœur pendant les mois qui ont précédé, n'est-ce pas, les moments de doute, d'incrédulité, etc. Peut-être même les murmures face à Dieu. Devant le Dieu de sainteté, le Dieu de vérité, Abraham ressent à quel point il est indigne. De là toute l'importance d'une telle déclaration. Abraham était déjà justifié parce qu'il avait déjà cru. Mais la vérité qui nous est affirmée ici, c'est que nous sommes justifiés une fois pour toutes. Et quels que soient nos impairs, quelles que soient nos chutes, quels que soient nos péchés qui ont suivi notre conversion, quel que soit le nombre d'années que nous sommes chrétiens, nous sommes toujours justifiés sur le même principe, par la foi seule, et rien d'autre. Et combien il est facile de tomber dans le piège, n'est-ce pas? Et Satan aime bien cela, nous faire tomber là-dedans, de croire que Dieu ne peut plus nous accepter parce qu'après qu'il ait manifesté tellement de bonté envers nous, tellement de grâce, et que nous, on est tellement de fois péchés, n'est-ce pas? À quel point on est incrédule, à quel point on est peu consacré, combien il est bon de réaliser que notre justification ne change point. Elle est parfaite, elle est éternelle, elle est totale. Du moment où quelqu'un a cru, il est justifié de tous ses péchés. Et quel que soit le nombre d'années qui sépare ce moment de conversion, ce moment de justification et ce moment où on se tourne à nouveau vers notre Dieu, nous ne sommes pas plus ou moins justifiés, nous sommes toujours justifiés. C'est de cela dont il est question ici. Tout le pèlerinage d'Abraham a été rendu possible parce que Dieu a compté sa foi justice, tout simplement, parce qu'il était accepté par grâce. Non pas sur la base de sa propre justice personnelle, mais celle de Dieu. Et celle de Dieu s'est manifestée en la personne du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais terminer en vous invitant à tourner dans Romains chapitre 3, les versets 21 à 28. Rappelons-nous qu'Abraham, tout au long de ses années, offrait ses sacrifices, reconnaissant qu'il n'avait aucun droit de s'approcher de Dieu à moins que le sang n'eût coulé, à moins qu'un animal, qu'un être innocent ne soit mis à mort à sa place. Nous n'avons aucun droit de nous approcher de Dieu, si ce n'est que par la foi en Christ Jésus qui a été justement sacrifié pour nos péchés. Et un autre danger, un autre piège est celui de croire que maintenant que nous sommes avancés dans notre sanctification, si quelqu'un ose croire cela, que nous avons moins besoin de ce sang. Vous savez que même dans l'éternité future, lorsque nous serons rendus à la perfection, glorifiés sans péché, nous nous approcherons toujours de Dieu par son Fils bien-aimé parce que nous sommes le produit de la grâce. Et si un jour nous serons débarrassés du péché, et si nous pourrons entrer dans la présence de notre Dieu, et si nous pourrons le louer parfaitement, tout cela ne sera que pure grâce. Et parce que nous serons débarrassés du péché, de toutes les ténèbres présentes, nous n'aurons aucun autre réflexe, parce que ça maintenant c'est la génétique du nouvel homme, que de nous présenter devant Dieu en lui rendant grâce pour son Fils et en reconnaissant que nous sommes des monuments de sa grâce. Romains chapitre 3, versets 21 à 28. Même plus tard, dans l'histoire de la rédemption, Dieu va donner sa loi à Israël, Dieu va réitérer cette loi qu'il avait inscrite dans le cœur de l'homme, non pas pour que quelqu'un cherche à être justifié par cette loi, mais pour mettre en lumière la corruption du cœur humain, l'incapacité dans laquelle nous sommes d'obéir comme il se doit à cette loi, et pour démontrer que nos transgressions méritent un châtiment. Et donc, tout l'Ancien Testament converge vers une personne, le Seigneur Jésus-Christ qui a été promis juste après la chute. Donc, Romains chapitre 3, versets 21 à 28. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victimes, propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » La loi est bonne, la loi est importante, la loi est la norme divine qui nous est révélée, la loi est là pour nous dire à quel point nous avons besoin d'être graciés, à quel point nous avons besoin d'un sauveur. Et Dieu nous sauve non pas par la loi, mais par la foi. Mais la foi, non pas qu'il a mis de côté sa loi, mais les exigences de la loi et de sa justice ont été remplies par son Fils, accomplies par son Fils au calvaire. Et il est devenu la victime propitiatoire, terme traduit souvent par expiatoire, mais le mot expiatoire n'est pas assez fort. Propitiatoire veut dire rendre propice, nous parle de colère. Dieu est en colère contre le pécheur. Le Fils est venu prendre sur lui cette colère-là, cette juste colère, et en raison de sa personne, de son être particulier, parce qu'il était Dieu fait homme, il a pu ainsi assouvir cette colère-là parfaitement, l'apaiser. Il a accompli tout ce qui était nécessaire à la justice de Dieu pour que nous puissions être libérés de notre culpabilité. Ainsi, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes lavés de nos péchés une fois pour toutes. Il a fait plus que cela. Il a donné sa vie, il a souffert pour mes péchés, mais toute sa justice personnelle en tant qu'homme a été aussi portée à mon compte. C'est là la plus grande assurance que je puisse avoir. Parce que s'il avait seulement fait l'expiation de mes péchés, il m'avait laissé là, alors la dette aurait été payée, mais mon compte serait demeuré vide. Il aurait fallu que je remplisse le compte. Il aurait fallu que je fasse les œuvres nécessaires pour être agréable à Dieu, pour être sauvé. Il n'a pas seulement payé la dette, il a rempli le compte. Tout est payé pour que je sois accepté. Et donc, ce que je suis est le fruit uniquement de sa grâce. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Parfaitement exclu. C'est pourquoi Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 et 31, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Il a tout payé et il a tissé pour nous une robe de justice dont il nous a revêtus et personne ne peut nous l'enlever. C'est un don gratuit et un don éternel. Vouloir préserver le moindrement nos œuvres, c'est littéralement vouloir rester sur un bateau en train de couler au fond de l'océan. Et c'est donc se condamner à périr. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter la bouée qui nous est donnée, qui va nous conduire sur un autre navire, qui, lui, ne peut couler, justement, celui de la justice du Seigneur Jésus-Christ. Quel confort pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, parce que si nous nous tournons vers les œuvres pour être agréés de Dieu, ce ne pourra être que déception. Ce ne pourra que nous conduire au doute et au désespoir, sinon qu'à l'hypocrisie. Cherche à nous cacher devant Dieu, devant les hommes, de tous nos péchés que nous commettons. Mais si nous tournons vers Christ, alors nous allons vivre dans la liberté des enfants de Dieu, sachant que la compréhension du salut qui est en Christ, de la justification par la foi seule, est la source par excellence de la sanctification. Lorsque ces choses sont bien comprises, loin de nous conduire au laisser-aller, au contraire, elles produisent en nous un élan de gratitude, d'action de grâce, d'adoration et un grand désir de servir notre Dieu. Qui peut contempler l'œuvre de Christ et en même temps désirer pécher encore? Au contraire, quand nous sommes séduits par l'amour de Dieu manifesté à la croix, nos âmes, naturellement, vont aspirer justement à la consécration, à l'incorruptibilité qu'on n'atteindra jamais ici-bas. Mais la justice de Christ est le gage par excellence qu'un jour nous allons vivre cela. Ça, c'est dans la génétique du nouvel homme. Cette justification par la foi est la seule doctrine qui puisse nous accorder une véritable assurance, produire cette joie inexprimable d'être agréé de Dieu à jamais par son bien-aimé, du fait que tout cela ne repose pas sur nous, parce que nous n'en avons aucunement la capacité, mais que tout nous vient de Dieu par son Fils bien-aimé. Amen.